peut-être que dire un court mot. Il y a la position devant Dieu, nous sommes glorifiés parfaitement et nous sommes parfaits, rendus parfaits à perpétuité. L'apôtre Paul dit, nous tous donc qui sommes parfaits, mais dans le même passage, il dira qu'il n'a pas atteint la perfection. Pour montrer les deux côtés, l'état, position devant Dieu, là, tout est accompli. Le résultat des souffrances de Christ, c'est d'amener plusieurs fils à la gloire. Il consomma le chef de notre salut par des souffrances, amenant plusieurs fils à la gloire. L'œuvre est complète et ses effets complets. Voilà. Mais comme cela vient de dire, nous ne pouvons pas nous reposer sur cette position. Nous avons à être ce que nous sommes, en somme. Vous savez, il est dit, vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Mais nous devons être ce que nous sommes devant les hommes. Alors, c'est cette gloire progressive, bien sûr, qui dépend de la contemplation du Seigneur, pour refléter la gloire. Une chose maintenant que je voudrais rapidement évoquer, parce que je crois que Jean-Luc en a dit un petit mot, c'est que le but de tout ça, le propos de Dieu, c'est pas nous. Évidemment, c'est Dieu, c'est le Seigneur en premier, c'est le centre des conseils de Dieu, le centre de l'amour paternel. Alors, nous sommes bien sûr concernés là, et nous avons normalement tendance à nous appesantir avec joie et reconnaissance sur tout ce qui a été fait pour nous. Mais le propos, c'est afin que le Fils ne soit pas seul, afin que le Fils soit premier-né entre plusieurs frères. C'est le propos de Dieu. Alors, je voulais juste, pour terminer cette pensée, lire dans le psaume 89, quelques versets qui sont prophétiques, qui parlent de David, mais nous avons dans le cœur le fils de David. Alors, nous avons dans le psaume 89, au verset 20, « J'ai trouvé David, mon serviteur, et les oins de mon huile sainte. Ma main sera fermement avec lui, et mon bras le fortifiera. » Verset 24, verset 24, on va aller un peu plus loin, allons au verset 27. Aussi, moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Voilà, je voulais en venir. En parlant de David, c'était le but pour David. Alors, si nous voulons bien voir là une prophétie quant au fils de David, je ferai de lui le premier-né des rois de la terre. Il nous est dit dans Hébreux 1, quand il a introduit le premier-né dans le monde, il dit, tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré, quelque chose comme ça. Mais c'est pour dire que le fils est appelé plusieurs fois le premier-né. Et le premier de qui? Eh bien, le premier-né de entre plusieurs frères, et c'est ça qui est merveilleux pour nous, d'avoir été appelés frères du Seigneur. Oh, nous n'avons pas, à mon avis, le droit d'appeler notre Seigneur notre frère. Moi, ça me choque. C'est notre maître, c'est notre Seigneur, c'est notre Rédempteur, c'est notre époux, c'est tout ce que vous voudrez. Mais même dire que c'est notre ami, je ne sais pas. Il nomme ses amis, il nous nomme ses frères. Mais voilà, et c'est le premier-né, celui que nous respectons, que nous vénérons et que nous adorons.
Le Seigneur Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire lorsque, dans sa prière du chapitre 17 de Jean. D'abord, il demande à son Père d'être glorifié de la gloire qu'il avait lorsqu'il était auprès de lui. Donc il était le Fils éternel, toute la gloire du Père, tout ce qu'était le Père, tout ce qu'il avait lui était donné, et voilà, depuis l'éternité passée. Et là, il lui demande qu'il soit glorifié de la gloire qu'il avait. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, il va monter dans le ciel, c'est un homme, alors qu'avant, c'était pas un homme ressuscité, glorifié, et il demande que toute la gloire qu'il avait, comme ce Fils bien-aimé, unique du Père, soit sur cet homme qui rentre dans le ciel. Et quand on lit la suite du chapitre, il nous dit, bien écoute, la gloire que tu m'as donnée, je voudrais la leur donner aussi. Dieu ne peut pas partager sa gloire, mais le Seigneur Jésus comme homme peut la partager. Il a voulu le faire. Et dans Jean 17, au verset 24, au verset 22, il dit, et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un. C'est complet, hein, qu'on soit tous un, tout là. et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous rendez compte de cet amour? Au verset 24, Père, je veux quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Ah oui, on confond la gloire qu'il a, lui, comme le Fils premier-né, ne peut pas être confondue avec la gloire que nous, qu'il veut pour nous, qu'il nous a donnée. Et alors, justement, pour faire suite à ce que disait notre frère Raymond dans Hébreux au chapitre 1er, il dit « Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. » C'est-à-dire cette compagnon de fils. Hein, il va accompagner des fils jusqu'à la gloire. Au-dessus. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Conforme à ce fils. Mais alors, il est le premier-né entre plusieurs frères. Mais si vous lisez la suite de cette épître aux Hébreux, vous découvrez que nous sommes quoi, nous? Dans Hébreux au chapitre 12. Il est parlé de l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux. Nous sommes des fils premiers-nés, mais lui, il est tellement plus grand. Voilà. Jamais confondu avec ça. Mais pour vous dire, alors Jean, tu te posais la question, après mon baratin, est-ce que c'est important, est-ce que ça sera quelque chose, tout ça, j'ai rien compris. Bon, d'accord. Ça, c'est possible, j'ai dû être confus, mais je voulais simplement faire passer une chose. C'est que franchement, vous voyez, il est le plus grand, mais on est presque. Voilà. Sa gloire, il nous l'a donnée. Nous sommes maintenant vraiment, pour le plaisir de Dieu, des personnes, des fils adultes que le Père attend depuis l'éternité pour avoir un échange d'amour, de relation, d'intimité. C'est ça qu'il veut. Alors franchement, est-ce qu'après ça on peut dire Dieu, il me laisse tomber? Alors moi je crois que c'est pratique ça. Parce que si on réalise qui on est pour Dieu, mais ça a changé ma vie. Si je suis au fond du trou, en train de, avec des épreuves les unes derrière les autres, est-ce que Dieu m'aime? Ben, lisez ça. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire, même si j'ai dit des choses un peu bizarroïdes. Pensez à ça. Hein, cette pensée de Dieu de toute éternité, avant que tout existe, pour vous, toi qui es au fond, disant, est-ce que Dieu m'aime? Eh bien, tu es son fils. Non seulement il a tout donné comme son enfant, mais comme son fils. Eh bien, tu vas être pour son plaisir. Parce que dans ce moment d'épreuve, le Père discipline tout fils qu'il agrée. Ah, le premier-né, là, il n'a pas besoin de discipline pour être parfait. C'est-à-dire le fils qui répond parfaitement au plaisir du Père. Nous, on a un peu besoin de ça. Eh bien, dans ce moment-là, tu es préparé pour le plaisir de ce Père. Eh bien, moi, je crois que c'est pratique, ça. Excuse-moi, Jean.
Juste deux toutes petites notes, mais pour une méditation personnelle, hein, pas pour développer des commentaires que certains pourraient trouver trop difficiles, mais écoutez bien les indications, c'est le plus beau des livres, je ne peux pas me lasser de le dire. Hein. Je lis 2 Corinthiens 5, et je trouve, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Je lis la fin d'Éphésiens 1 et je trouve, à propos de tous ceux qui sont liés à Christ, qu'il constitue ce qui laisse à Christ sa primauté, comme on vient de le souligner, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Dieu tire très haut, mais il mène jusque-là. Sujet de méditation personnelle, ça vaut la peine de s'y arrêter et d'y penser avec le Seigneur. On prie, on lit les passages, on se laisse pénétrer par ce contenu. Après, on peut en parler un petit peu en attendant de comprendre, parce que ça, c'est la réalité. Les choses que Dieu nous donne, qui nous permettent d'échanger, sont les choses du temps avec beaucoup d'apparence. Mais ce dont nous parlons, c'est la réalité. Ça vaut la peine de s'y arrêter et de méditer personnellement.
Je crois que c'est, il faut qu'on soit bien convaincu que c'est la réalité. Souvent, donc, quand on présente les choses, on parle de notre position, comme on l'a fait tout à l'heure, et puis de la réalité. Je suis désolé, mais il faut. J'ai eu de difficultés avec ça quand j'étais plus jeune. C'était un peu comme s'il y avait une double identité. D'un côté, la position qui est bien au-delà et qui ne nous concerne pas au fond, Et puis, nous, en bas, on peine comme une chenille qui essaye d'atteindre un truc inaccessible. Notre position, c'est la réalité de notre identité. Aujourd'hui, nous sommes saints. Et c'est une réalité. Un saint, malheureusement, qui peut pécher. Mais ce n'est pas un objectif à atteindre. Dans un sens, nous avons à grandir dans la sanctification. Mais la réalité, c'est je suis un fils, je suis un enfant. Alors, c'est vrai aussi que dans l'épître de Jean, le chapitre 3, première épître de Jean, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. L'éternité, on n'y est pas encore. Mais quand nous le verrons, nous lui serons semblables, quand nous le verrons comme il est. Mais en attendant, celui qui a cette espérance en lui, en Christ, en Dieu, se purifie comme lui est pur. Là, il y a un autre aspect des choses. Alors, il faut essayer de... Tout ça, c'est un ensemble, si vous voulez, mais qu'il faut bien intégrer. Mais il n'y a pas de double identité. Ce que Dieu a fait, tu l'es. Peut-être encore une chose, quand à ressembler à Christ. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul dit ceci, « Mes enfants pour lesquels je travaille, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Petit à petit, dans nos vies, Dieu travaille et forme Christ en nous, à travers la discipline, les épreuves, à travers ce que l'on apprend, à travers la communion développée avec le Seigneur. Vous savez, quand un couple a vécu... Ça, ce sont les aléas de la technique. Quand le Seigneur était sur le lac, il n'avait pas besoin de micro. Et il y avait des milliers de personnes qui entendaient.
La nature y a porté du sien.
Oui. J'ai un peu perdu ce que je voulais dire. Je vais dire une chose. Au niveau du fait d'être premier-né entre beaucoup de frères, j'aimerais qu'on revienne à la nouvelle traduction et qu'on enlève plusieurs, parce que dans notre esprit, plusieurs, c'est quelques-uns. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs n'est pas beaucoup. Or, c'est beaucoup. Il y aura beaucoup de frères. L'œuvre du Seigneur est infinie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en lui. Quand vous rappelez peut-être l'histoire de Pierre quand il a pêché le poisson pour avoir les pièces pour payer l'impôt du tribut du temple. Le Seigneur va lui dire, est-ce que les fils payent? Et Pierre leur dit non, ils payent pas l'impôt, les fils du roi ne payent pas. Donc tu vas les pêcher et puis tu vas les prendre, tu vas trouver ce qu'il faut pour payer pour nous. C'est ça qu'il dit? Voilà, il dit pour moi et pour toi. Mais en français, normalement, on doit dire pour toi et pour moi. Est-ce que le Seigneur est impoli? Non. Il lui donne une leçon. Tu es un fils, tu vas payer pour moi, qui suis le premier-né, et pour toi, qui es un fils. Et je crois qu'il y a déjà en germe la leçon que l'on a dans ce chapitre. Mais tu es un fils. Et je rejoins enfin, un peu ce que tu disais, Philippe, c'est vraiment une leçon qu'il faut qu'on apprenne. Dieu a fait cela et aujourd'hui, dans la vie, dans ce que nous vivons, il y a des moments tellement difficiles où on aurait l'impression qu'il y ait comme un espace entre Dieu et nous. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il me punit? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et en fait, non, Dieu nous aime et à travers toutes ces circonstances que l'on vit, Il avance pour son propos, son dessein. Toutes choses travaillent ensemble pour cela. Et son dessein, c'est ce qu'on a dans ce verset. Et il ne perd pas de vue ce dessein-là. Et toi, tu n'as pas perdu de valeur à ses yeux.
Je veux dire quelque chose d'assez simple, mais peut-être presque tout le monde ici doit le comprendre. Premier né entre plusieurs frères, ça ne veut pas dire que le Seigneur est né. Bon, il est né, qu'il a un commencement plutôt, et il faut quand même savoir l'expliquer parce que le témoin de Jéhovah emploie des versets comme celui-là pour dire qu'il n'est pas Dieu. Cette notion de premier-né, elle est dans toute la Bible, elle est surtout liée à la prééminence, on en a bien parlé. Et c'est même dit pour Israël, par exemple, en Exode 4, je crois. Exode 4, 22, tu diras au Pharaon, ainsi dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et donc, c'est pas la première des nations. Et Dieu lui a donné une prééminence comme son peuple, on en a parlé aussi. C'est vrai qu'il y a des versets un petit peu difficiles dans Romains 8, par exemple. Mais il y a quand même de nombreux versets qui attestent que le Seigneur est Dieu. Je parle de ça parce que j'ai eu une discussion avec des témoins de Jéhovah distribuant des traités. La dame, elle était vraiment accrocheuse pour essayer d'annuler la notion de la Trinité. J'avais pas ma Bible sur moi. J'avoue qu'en revenant à la maison, j'ai pris ma Bible et j'ai cherché tous les versets qui prouvaient la notion de la Trinité. C'est important cette pensée que le Seigneur est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est éternel, et nous sommes maintenant liés à lui par ce grand salut de Dieu pour un dessein merveilleux comme on est en train d'en parler.
Juste pour fermer la parenthèse, j'avais un collègue très, très sincère mais incrédule, dont la femme était croyante, mais très engagée chez les témoins de Jéhovah. Et un jour, ils m'ont invité chez eux, parce que j'allais travailler dans leur ville. Bon, je suis allé, et on a pris la Bible, et on a parlé des choses, évidemment. Alors, elle a essayé, effectivement, comme tu viens de le dire, de démontrer que le Seigneur était venu à un moment donné. Alors finalement, je lui ai simplement lu, je lui ai dit, vous avez la Bible, vous lisez simplement, donc elle a lu un Jean 5, hein. Jésus-Christ, lui, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et comme elle déviait chaque fois, j'y revenais, je lui ai dit, s'il vous plaît, relisez. Ah, vous y tenez à ce verset-là. Ben oui, il est écrit, on ne peut pas l'enlever.
Oui, tu aurais pu citer Tite, chapitre 2. Il est question de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et puis alors, pas besoin d'aller bien loin, si on regarde au chapitre 9 de Romains, eh bien, nous avons au verset 5, auxquels sont les pères et desquels sont, selon la chair, et issu Christ, qui est sur toute chose Dieu, béni éternellement. Voilà, la question se pose pas. Mais pour la question du premier-né, bien sûr, le premier-né d'entre les morts. Dans Apocalypse 1, il est question du témoin de fidèle, du premier-né d'entre les morts, du prince des rois de la terre. Dans Colossiens 1, le premier-né de la création, il ne faut pas se laisser perturber par cette expression. Moi, je pense qu'en effet, comme on l'a dit, ça veut dire la prééminence. Et puis alors, premier-né d'entre le premier-né de la région. Premier-né, ressuscité premier-né d'entre les morts, c'est parce que, bien sûr, le Seigneur inaugure la première résurrection, c'est les prémices, Christ, et puis alors dans Colossiens, il est donc question de Christ qui est donc le premier-né de la création. Ça veut dire que c'est la prééminence, je pense, c'est le créateur, évidemment, ce sont des expressions où on pourrait discuter à perte de vue, mais le grand trouble, c'est quand on veut ignorer des versets et mettre les versets en contradiction. La parole de Dieu ne se contradit pas, c'est la parole de Dieu. Dieu sait ce qu'il dit, et il peut y avoir des difficultés, des contrastes, mais pas de contradiction foncière.
Est traduit différemment dans la version du Monde Nouveau. C'est pas traduit comme ça, il faut le savoir, parce qu'on peut se faire coincer. Il dit dans Romains 9, donc verset 5, « Desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose, Dieu béni éternellement. » Alors, le texte qu'ils ont, c'est « Donc, duquel, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose, point, que Dieu soit béni éternellement. »
c'est souvent dans tous les passages clés hein, sur la divinité de Christ, il y a des tournures de phrases différentes. Bon, c'est vrai que leur meilleur argument, c'est quand même, quand ils parlent du premier-né, ils se basent toujours sur Colossiens 1, verset 16. Donc le premier-né de toute la création, de toute création, comme si Christ était la première créature de Dieu en réalité, c'est ça leur argument. Et donc effectivement, on peut bien leur opposer que c'est le mot prototokos, je crois, qui indique une primauté et non pas une origine. Voilà, une prééminence, il est au-dessus de toute création et non pas il est la première des créatures. Par contre, il est premier-né d'entre les morts. D'entre les morts, ça veut dire qu'il fait partie des morts, de ceux qui sont morts, et qu'il a été ressuscité, mais pas le premier non plus. Il est le plus éminent, hein, on peut dire, des ressuscités, parce qu'il y a eu des ressuscités avant le Seigneur Jésus.
Dans l'Apocalypse, c'est premier-né des morts.
Ouais. Premier-né, donc le plus éminent des morts ressuscités, hein, puisqu'il y a eu des résurrections avant le Seigneur Jésus, au temps d'Élie et d'Élisée. Donc c'est une question de dignité, de prééminence, de primauté, et non pas de... C'est pas une notion de temps. C'est pas une notion d'être le premier dans l'histoire.
Mais le passage du psaume 89 qu'on a lu tout à l'heure, c'est « Je ferai de lui le premier-né ». Il n'est pas écrit « Il sera mon premier-né », comme il y a le premier-né dans une famille. « Je ferai de quelqu'un qui existe le premier-né ». C'est bien une primauté.
Oui, et la suite du verset, on l'a pas lu, hein, faut le lire. Psaume 89, 27... Aussi, moi, je ferai de lui le premier-né, c'est-à-dire le plus élevé des rois de la terre. Donc ça s'explique de soi-même, là.
Alors, dans notre passage, l'extraordinaire, c'est que c'est le Seigneur Jésus, celui qui est si grand, eh bien, c'est celui que Dieu nous a donné. Il ne l'a pas épargné, il l'a pour accomplir ce projet qu'il avait pour nous, qu'on soit semblable à Christ, qu'on reflète sa gloire, il a épargné son Fils. Celui dont on a dit qu'il était si grand. Et l'idée du passage aussi, c'est si Dieu nous a fait un si grand don, qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner?
Donc pour essayer de cadrer un peu ce dernier paragraphe, hein, donc on va avoir trois choses. Donc que dirons-nous donc à ces choses, hein? On vient de développer à quel point Dieu nous a bénis, bon, essentiellement par l'action du Saint-Esprit, puis ce destin glorieux qui est le nôtre. Alors, maintenant, eh bien, n'ayons crainte, première chose, donc, Dieu ne nous fera-t-il pas don de toutes choses avec lui? Ensuite, deuxième point, qui nous condamnera, hein, à partir du verset 33, 34. Et puis, quatrième chose, qui nous séparera de l'amour du Christ? Donc, voilà trois points qu'on va pouvoir développer.
Dans ce développement, il y a des choses très fortes, et en particulier les questions d'épreuves. Et le point de départ qu'il ne faut pas oublier, c'est Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Et on se souvient peut-être quand les fils de Jacob reviennent et qu'ils disent à leur père, il faut maintenant repartir avec le dernier pour aller voir l'homme que nous avons vu. Et Jacob, il est donc en pleine épreuve. Il a perdu sa femme, il a perdu son fils, il va en perdre un autre. Et dans Genèse 42, il dit au verset 36, Jacob, leur père, leur dit, vous m'avez privé d'enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, vous voulez prendre Benjamin, toutes ces choses sont contre moi. Et plus tard, alors sur le moment, il réagit comme ça, et c'est normal, il est dans la détresse, c'est contre moi. Et puis, plus tard, quand il va bénir les fils de Joseph, il va dire ceci, il va parler du Dieu qui a été mon berger, chapitre 48, verset 15, « Le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes. Le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à aujourd'hui. » Donc celui qui a été pour lui. Et c'est une leçon qu'il a apprise, c'est une leçon que j'ai besoin d'apprendre, c'est une leçon que j'ai besoin de ne pas oublier. Dieu est pour nous.
Dieu peut avoir quelque chose contre nous,
par exemple, on le trouve dans chacune des églises de, non pas dans chacune, dans plusieurs des églises d'Apocalypse 2 et 3. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors c'est vrai, si ça nous arrive, ça ne plaît pas à Dieu. C'est une tristesse pour Dieu. Hein, il y a quelque chose entre lui et nous. Mais lui, dans son cœur, dans ses pensées, il est pour nous. Et il est pour nous défendre auprès de l'accusateur des frères. Il est là pour, par son esprit, toucher notre conscience pour que nous revenions à lui. Il est là sans cesse pour nous aider. Il est pour nous.
Il y a pas mal de passages qui montrent que Dieu est pour nous, Dieu est... Et lorsque l'accusateur des frères dont on parlait est là devant Joshua dans Zacharie 3, et l'Éternel dit que l'Éternel te, l'ange dit que l'Éternel te tense, Satan, que l'Éternel te, celui qui a choisi Israël, te tense. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Et on met une plus belle robe, la robe de la justice, à Joshua. Voilà, Dieu prend notre défense contre l'accusateur. Et alors, ça me fait penser à ce que dit Balaam. Balaam, contrairement à ce qu'on croit, c'est un vrai prophète, c'est pas un faux prophète. Il a prophétisé, mais c'est un prophète réprouvé. Alors, nous voyons dans Nombre 23, il dit « Comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit ?» Et comment appellerai-je l'exécration sur celui que l'Éternel n'a pas en exécration? C'est merveilleux de voir cela. Personne ne peut nous condamner, on le chante dans un cantique. Si on regarde Ésaïe, au chapitre 54, il est question... Bien sûr, d'Israël, c'est en première intention. Eh bien, il est dit à la fin du chapitre, « Aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Nous sommes du côté du vainqueur, et c'est ce que est exprimé ici. Que dirons-nous à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et qui intentera accusation contre les élus de Dieu? Contre les élus de Dieu. Ça n'a pas besoin d'être commenté. Nous le sentons toute la force de cette protection. Dieu est juste pour justifier celui qui est la foi de Jésus.
Que dirons-nous donc à ces choses? C'est donc une portion qui fait le lien avec ce qui précède. Il ne faudrait pas qu'on cherche à accréditer le fait que Dieu est pour nous à travers un certain nombre de petites choses qui peuvent être appréciées différemment de l'un à l'autre. Moi, je trouve ici tout un cheminement, la préconnaissance, la prédestination, puis Dieu appelle, puis Dieu apaise dans l'appel en disant « Mais il y a justification, il veut en jouir, il veut que nous en jouissions. » Puis il parle de gloire. Et puis la plus forte des choses, si on avait oublié, c'est bien le travail de Dieu dans ce qu'il fait, qui montre qu'il est pour nous. Il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Voilà, je vois Dieu pour nous. Indépendamment de mes perceptions personnelles, ça c'est solide, c'est total. Et alors, Dieu le fait de telle manière et avec une telle intention qu'il veut nous unir à Christ, et pour réaliser justement ce que nous avons cité de diverses manières tout à l'heure, alors il nous donne toutes choses avec lui. Il faut alors en prendre conscience, entrer dans ces choses, et puis être simplement un peu reconnaissant. Quand on a des choses comme ça, on ne peut pas d'un seul coup les oublier, non. Il faut s'y accrocher, il faut y entrer, il faut les approfondir. C'est la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait, et c'est un devoir de reconnaissance, c'est une joie de reconnaissance, c'est la vie, ça. La vie avec Dieu, la vie avec le Seigneur.
nous sommes des fils, mais il n'y en a qu'un pour lequel il dit son propre fils. Il n'y en a pas deux. Nous sommes des fils, propres fils. On l'a vu au chapitre 8, verset 3, il est dit, il a envoyé son propre fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Nous savons pourquoi il a envoyé son propre fils, et maintenant nous savons qu'il n'a pas été épargné. Il n'a pas été épargné. Il a abandonné son fils à la main de ses ennemis. Nous le savons bien, et c'est cela qui nous montre l'amour divin. Et alors, si on lit dans Malachie, chapitre 3, nous savons qu'il est dit, « Comme un père épargne son fils, je vous épargnerai. Nous sommes épargnés. » Mais le propre fils ne l'a pas été. Et c'est toujours l'ineffable mystère de cet amour impossible à comprendre. Et c'est toujours, nous pouvons le dire, Dieu a fait éclater son amour en livrant le bien-aimé de son âme à la main de ses ennemis. Ça, il faut se le redire toujours dans notre cœur. Il n'a pas épargné son propre fils. Il est allé jusque-là. L'amour a été démontré. Et alors, pourquoi l'amour serait-il démenti ensuite en nous donnant pas toutes choses librement? Mais ce dont nous avons besoin, ce qu'il connaît nos besoins, et il ne nous donnera pas des choses inutiles. Toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père des Lumières, descend d'en haut du Père des Lumières, épître de Jacques. Alors, ce qui est bien ne vient que de Dieu, et de Dieu il ne vient que du bien. Tout le reste, ce n'est pas bien. C'est notre seule source. Voilà.
Dans Malachie 3.17, c'est précisé comme un père épargne son fils qui le sert. Et c'est vrai qu'on peut bien dire que le Seigneur Jésus a été ce fils qui le servait vraiment au plus haut point. Et pourtant, effectivement, il a été abandonné au plus haut point aussi. Donc ça montre vraiment, en effet, le prix que Dieu a payé, l'investissement, on pourrait dire, entre guillemets, que Dieu a fait pour nous. Et qui montre à quel point il nous est favorable, et donc on ne doit pas s'inquiéter effectivement pour le reste. Certainement les choses de la vie, les besoins de la vie, il me semble, ne nous fera-t-il pas don de toutes choses avec lui? Il me semble que c'est des choses du quotidien, et ça rejoindrait un peu, donc nous donner cette confiance pour les besoins du quotidien, de la vie en général. Un peu comme dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. S'en remettre à Dieu pour nos besoins du quotidien et de la vie aussi, avec confiance, parce qu'on a vraiment la preuve immense qu'il nous aime.
Un passage qui est porteur de paix. Et il ne faut pas se laisser troubler. On voit des personnes qui sont troublées, qui sont inquiètes. On a revu il y a quelques jours une personne qui est omnubilée par le fait. Mais c'est inconcevable, étant donné ses dispositions d'esprit, la manière dont elle prie, son attachement au Seigneur, mais elle est omnubilée par le fait qu'elle pourrait pécher contre le Saint-Esprit. Voilà, il y a des passages ici qui sont très clairs, qui inondent de paix. Dieu dit, si quelqu'un veut accuser, eh bien, moi je m'en charge. Et puis, c'est Dieu qui justifie, donc moi je m'en charge. Et puis, c'est Christ qui est mort. Voilà des choses indiscutables, et maintenant, ça c'est réglé. Une question de communion, c'est autre chose, mais là, une vraie paix. Si quelqu'un ici, de temps en temps, sent comme naître un doute ou une appréhension en lui-même, eh bien, il faut relire simplement ce passage lentement et laisser pénétrer ce que Dieu donne par ce passage-là. Pas de condamnation, comme au début de Romains 8 d'ailleurs, pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, ça c'est une manière très forte relativement à la situation éternelle, mais là, comme en liaison avec ce que vient de dire Pierre-Henri, c'est une sphère, dans la sphère de la vie pratique, effectivement, une vraie paix. Dieu a fait tout, il a tout fait en Christ, Christ est mort, la question est réglée, une vraie paix. Il faut régler les choses peut-être, on les règle et c'est fini. Il n'y a pas d'accusation possible, sinon, eh bien, on estimerait que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante et que la pensée de Dieu en Christ présente des lacunes. Mais ça, c'est une injure, c'est inconcevable. Et nous sommes d'accord sur le fait que c'est inconcevable. Alors jouissons tranquillement de la paix et de la sérénité.
Oui, il y a les quatre questions qui sont là successives et on y rentre petit à petit. En réponse à chaque question, il y a un argument fort. La première réponse, c'est que Dieu a déjà payé beaucoup plus que ce que tu lui demandes aujourd'hui. Il a donné son fils. J'arrive pas à trouver un bon exemple, mais enfin, j'ai un ennui avec ma voiture. Aujourd'hui, l'aile est rayée. Et j'ai des doutes. Est-ce que l'assureur va payer ? L'année dernière, il t'a payé une voiture complète parce que tu l'avais cassée. Et tu as des doutes cette année simplement pour une éraflure ? Dans l'exemple n'est pas à la mesure de ce que Dieu a fait, excusez-moi, mais c'est pour comprendre la force de l'argument qui est là. Il a donné son fils pour toi, mais n'ai aucun doute aujourd'hui pour les petits problèmes. Problème énorme, tu les ressens comme énormes, mais devant Dieu, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il a réglé. Alors la question de la justice, j'ai été sauvé, oui, mais c'est vrai que dans la qualité de mes exercices devant Dieu, je sais pas, ma conscience, enfin, etc., et Satan va m'accuser. Mais attendez, devant Dieu, qui c'est qui a réglé ton dossier ? Qui c'est qui t'a justifié ? On l'a lu dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. C'est quand même Dieu qui nous a justifiés. C'est lui qui a ficelé le dossier, encore une expression banale, excusez-moi, mais il faut bien comprendre la force des arguments qui sont là. Je ne peux pas être condamné, même si aujourd'hui j'ai eu une faiblesse. Alors il faudra peut-être la confesser pour que la communion soit heureuse. Mais quant au principe, c'est parfaitement établi par Dieu lui-même, et non pas par mes hésitations.
Dans cette idée de l'accusation, donc toute accusation contre nous, il me semble qu'il y a deux choses. Il y a que Dieu accusera un jour les hommes, et il les condamnera, certains. Donc il y a que dorénavant, étant à l'abri du sang de Christ, nous ne serons plus accusés, nous n'aurons plus à rendre compte des péchés puisqu'ils nous ont été pardonnés et notre salut ne sera plus remis en question. Donc plus d'accusation, plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ça c'est une première chose. Et ensuite il y en a une deuxième aussi, il me semble, c'est les assauts de Satan qui lui nous accuse d'une autre manière. Il me semble que c'est comme l'histoire de Job, hein, où Satan va venir va comparaître devant Dieu et puis va insinuer une difficulté qui pourrait faire que Job va se mettre contre Dieu. Alors il va provoquer là quelque chose. Satan certainement aussi a des ambitions par rapport à nous pour que nous tombions. Et alors là, quand même, on a une protection spéciale de la part du Seigneur, quoi.
Je voudrais juste réfléchir un peu avec vous. Donc là, on donne des affirmations, mais quand on est au moment d'un doute, eh bien, on est souvent dans le domaine du ressenti. Et je ressens pas que Dieu peut me pardonner, etc. Et est-ce que justement la vie de foi, c'est justement pas le ressenti, mais ce sont des affirmations de Dieu. Alors pour être sûr, eh bien, il faut peut-être et surtout quand on est jeune, passer du temps à lire la Bible pour voir ce que Dieu dit, Dieu dit de nous, mais ce qu'il fait aussi pour nous. Quelles sont les conséquences, par exemple, d'un péché en tant que chrétien ? Conséquences d'un péché en tant que chrétien, c'est vrai, on nous a dit tout à l'heure, le diable est peut-être en train de me dire, mais tu vois, comme c'est grave, si tu aimais vraiment Dieu, tu n'aurais pas fait ça. Et puis vraiment, Dieu ne peut plus t'aimer, quoi, puisque tu as fait une telle chose, vous rendez compte. Et alors donc, ça c'est des insinuations. Mais comment on peut répliquer à une insinuation? Sinon par une affirmation de Dieu. Donc lire la Bible, ça va permettre de savoir ce que Dieu dit. Et ça c'est important. Et de connaître Dieu. Qui est Dieu? Alors ça, on a un peu passé du temps avec ça. Et alors, quand il est parlé du bouclier de la foi, parce que justement ça c'est comme une attaque, hein, pour me déstabiliser. On a parlé un peu de ça, je crois. Donc, est-ce que Dieu est contre moi? Non, ça non. Je m'accuse, je suis accusé, est-ce qu'il y a des raisons? Alors, la foi c'est quoi? Eh bien c'est simplement croire ce que Dieu dit. Non pas simplement croire en Dieu, etc., un Dieu bon. Non, ce que Dieu dit. Mais pour ça, pour croire ce que Dieu dit, il faut savoir ce qu'il dit. Donc c'est important pour nous de vraiment lire l'Écriture et la lire non pas comme un texte général, mais qu'est-ce que Dieu me dit à moi. Et apprendre ça. Et puis apprendre beaucoup de versets par cœur. Parce que c'est souvent quand on n'a pas de Bible, on est dans son coin là et on a cette déstabilisation. Et là, à ce moment-là, Dieu, par l'Esprit, va nous redonner un texte et on va pouvoir le dire à haute voix et dire ce texte, voilà, et je crois ça. Hein? Et comment est-ce que le diable peut s'enfuir sinon, justement, devant la vérité de Dieu qui est affirmée. Donc, je crois vraiment que d'un côté, il y a le ressenti, ressentir ce que l'on est, mais la foi. Et je crois que là, vraiment, l'arme, c'est le bouclier de la foi. C'est-à-dire, je me protège en déclarant, voilà ce que Dieu dit, donc je crois Dieu. Je ne sais pas si ça peut aider un peu.
Quand le Seigneur Jésus a été tenté par le diable, il a répondu par la parole de Dieu. Et Dieu et le diable aussi peut utiliser des demi-versets pour déstabiliser quelqu'un, et on peut avoir une demi-vérité ou quelque chose qui pourrait venir et nous déstabiliser quant à notre confiance vis-à-vis du Seigneur. Alors c'est vrai que c'est par la parole de Dieu que l'on répond. Alors tu disais de lire la parole de Dieu, d'apprendre des versets. Je ne sais pas, on peut peut-être penser à l'exemple de Jonas. Quand Jonas est dans le ventre du poisson au fond de la mer, il va prier l'Éternel. Et il va prier avec des extraits de psaumes. Et je ne pense pas qu'il était dans le ventre du poisson avec une bougie pour lire le livre des psaumes et redonner ça. C'était ce qu'il avait accumulé dans sa lecture. Et Dieu a réveillé dans son cœur cela, et c'est cela, cette parole de Dieu qui l'a rapproché de Dieu, qui l'a amené à crier à Dieu et à être délivré. Il me semble que c'est un peu ça qu'on doit apprendre. Alors remplir notre cœur de la parole de Dieu et des affirmations de la parole de Dieu. Il faut savoir que la première accusation du diable ou la première attaque du diable dans la Genèse, la première phrase est « c'est quoi Dieu a dit ?» Et dans le ressenti qu'on peut avoir à un moment donné de doute, de fatigue, on peut être extrêmement fatigué dans la maladie, je ne sais pas, le moment où on ne peut plus prier, eh bien, il y aura cette pensée. Quoi Dieu a dit? Mettre en doute ce que Dieu a dit. Oui, Dieu a dit. Et affirmer ce que Dieu dit. Et quand tu parles de le dire à haute voix, je crois que c'est absolument important. Parce que, de toute façon, le diable ne lit pas dans nos pensées. Et quand tu affirmes la parole de Dieu, c'est la manière de résister au diable et il s'enfuira de vous, en le disant.
Donc, il y a deux choses que le diable peut insinuer, suite à une faute que nous commettrions éventuellement. Soit c'est qu'on va perdre le salut à cause de cette faute. Deuxième chose, c'est soit aussi qu'on va perdre la communion à cause de cette faute. Alors là, on a deux versets hein, qui sont quand même sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour ce qui est d'être sauvé. Eh bien, Romains 5, verset 1. « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, ça c'est acquis par la foi. De toute façon, Dieu nous a pardonnés, donc nous sommes sauvés. Pour ce qui est de perdre la communion, là aussi il faut se saisir de ce que la Bible dit, eh bien, on est invité à confesser, bien sûr, nos fautes, et à partir de là, à partir du moment où une faute a été confessée, même si elle a été grossière, si elle a été grave, c'est une fois qu'elle est confessée, eh bien, elle est pardonnée aussi sur le plan de la communion. Si nous, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà deux versets qui doivent nous tranquilliser par rapport au salut et par rapport à la communion retrouvée. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous en avez, moi j'ai des souvenirs de fautes que j'ai commises, qui, peut-être dans des circonstances un peu traumatisantes et qui me reviennent quelquefois à l'esprit. Et je crois que c'est un peu Satan qui comme si j'avais pas vraiment fait ce qu'il fallait pour que ça soit vraiment définitivement réglé, mais à partir du moment où ça a été reconnu devant Dieu, il n'y a pas lieu d'y revenir et d'être comment dire perturbé par ça. Voilà, ça a été jugé devant le Seigneur, c'est fini. On n'en parle plus, il ne faut pas que ça nous trouble dans notre communion avec le Seigneur.
Il faut le voir tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. C'est-à-dire que dans des questions qui concernent un individu ou qui concernent une famille ou dans des questions qui concernent un rassemblement, quand une chose est jugée avec le Seigneur, personne n'a le droit d'y revenir. C'est une faute grave que d'y revenir et de troubler avec des choses qui ont été réglées devant Dieu. Je vous invite à jouir de cette paix comme les autres, comme toi. Moi aussi, j'ai à certains moments des choses pour lesquelles ma conscience me reprend. Mais je suis tranquille, j'en parle au Seigneur, et puis c'est fini, c'est derrière, et moi j'ai les yeux devant. Et on est invité à aller de l'avant. Mais il faut le voir, et sur le plan individuel, et sur le plan collectif. Ça, c'est essentiel. On trouvera une vraie communion avec le Seigneur, et une communion partagée, si on a compris ce pilier des relations et de la communion. Alors ici, nous lisons qu'il y a un intercesseur, celui qui est ressuscité pour notre justification, comme on le trouve dans le même livre, à la fin du chapitre 4, lequel a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité, il faut le travailler ça, hein. J'ai eu l'occasion de visiter une personne, maintenant c'est réglé, mais il a fallu 2 ou 3 ans. La résurrection, je ne peux pas y croire. Il a fallu 2 ou 3 ans. Bon, j'espère qu'ici, tout le monde est convaincu que le Seigneur est ressuscité. Il est réellement ressuscité. C'est un verset de la parole de Dieu. Si nous croyons la parole de Dieu, nous lisons en toutes lettres, il est réellement ressuscité, c'est quelque chose qui est rapporté aux disciples, justement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, c'est écrit, j'y crois. Parce que la parole, pour moi, c'est la vérité. J'espère pour tout le monde ici. Alors, eh bien, il est ressuscité, pour ma justification, j'y crois. Il est à la droite de Dieu, il occupe une position d'autorité, de pleine approbation après son œuvre, il intercède pour nous. Alors, nous avons des passages qui nous parlent de la prière, et certaines personnes sont troublées parce qu'on dit, par exemple, « Ah oui, mais il ne faut pas demander n'importe comment. Ah oui, mais il faut demander selon la volonté de Dieu. » Autrement, bon, on tourne tout ça pour essayer de tordre les passages au lieu de recevoir ce qui est écrit. Mais dites-moi, l'intercession de Christ. Qui oserait ici dire qu'il y a quelque part un défaut dans l'intercession de Christ? Personne, j'espère, nous sommes d'accord. Personne ne lève la main. Bon, nous sommes bien d'accord. Alors, il intercède pour nous. Première chose, qu'est-ce qui se trouve en chacun de nous? Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu. Chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, l'Esprit prend de ce qui est à Christ pour nous le communiquer. Il y a donc cette intercession de Christ parfaite. Il y a le propos de Dieu que nous avons évoqué tout à l'heure, le désir du bien, nous faire avancer toujours davantage dans sa réalité, la réalité, Puis l'intercession de Christ, l'Esprit en nous pour que nous jouissions de ces choses, il intercède, je sais qu'il intercède, je laisse l'Esprit agir en moi, il prend de ce qui est à lui, me le communique, je jouis de l'intercession de Christ. Ça, c'est une véritable paix. Il ne faut pas se laisser bouleverser et balloter dans son cœur ou dans ses pensées par des coins que Satan essaie d'enfoncer à certains moments, non ? La parole de Dieu, comme l'a dit Jean-Luc, elle est là. Dès que quelque chose de troublant se manifeste, je cherche, je lis à haute voix, tranquillement, je reçois ce qui est de Dieu. Si je sens quelque chose qui essaie de me dire non, je dis « tais-toi, c'est Dieu qui parle ». Et on jouit et on entre dans la paix qui est proposée là.